les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle.
Aujourd'hui, David Chekroun, professeur de droit des affaires à l'ESCP Business School, nous parle du contrôle des investissements étrangers en France. Épisode 3. Le régulateur dans le contrôle des investissements étrangers en France.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Anne Lavergne, chef du bureau contrôle des investissements étrangers en France à la Direction générale du Trésor. Marie-Anne Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, on va aborder ce contrôle un peu mystérieux des investissements étrangers. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement les objectifs du contrôle des investissements étrangers en France ?
Alors, le contrôle des investissements étrangers en France vise uniquement à protéger les activités en France qui participent à l'exercice de l'autorité publique ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à l'ordre public ou aux intérêts de la défense nationale. Vraiment, ce contrôle ne s'applique que dans cet unique objectif. Et en pratique, ça signifie qu'un investissement étranger dans une activité dite sensible doit être autorisé par le ministre avant sa réalisation. Alors, cette disposition de contrôle d'un investissement étranger en France est prévue par le droit de l'Union européenne, puisque l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet aux États membres de déroger à la libre circulation des capitaux pour des motifs uniquement liés à l'ordre public et à la sécurité publique.
Parce que si on comprend bien, donc il y a une souveraineté nationale et il y a aussi alors une souveraineté européenne, il y a un mécanisme de filtrage européen qui existe aussi.
Alors, il y a un règlement européen qui a été adopté en 2019, qui est entré en vigueur en octobre 2020, et qui, en fait, ne prévoit pas un contrôle par la Commission européenne, donc au niveau européen, mais par contre qui met en place deux choses. La première chose, elle va définir des modalités, finalement, communes au sein des États membres pour mettre en place un mécanisme national de filtrage des investissements étrangers, mais... Bien sûr, la compétence reste au niveau des États membres sur le filtrage d'un investissement étranger qui a lieu sur leur territoire. Donc ça, c'est le premier volet de ce règlement. Le deuxième volet du règlement, c'est la mise en place d'un mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission européenne pour tout investissement non européen dans un État membre. Donc en pratique, cela veut dire que lorsqu'un investissement non européen, par exemple, est prévu en France, nous allons notifier... la Direction générale du Trésor notifie à la Commission européenne et au point de contact dans les États membres l'investissement qui a lieu. Ces États membres-là et la Commission peuvent nous faire part de commentaires ou d'avis mettant notamment en exergue les risques que peuvent présenter cet investissement étranger sur le sol français dans d'autres États membres.
Est-ce qu'on peut dire que presque tous les États dans l'Union européenne se sont dotés d'un mécanisme de filtrage, à l'exception, je crois, de deux États, dont le Chypre, si mes souvenirs sont exacts. Alors donc, vous nous dites pas véritablement de souveraineté européenne, mais le contrôle est exercé nationalement par les autorités de contrôle, en l'espèce le régulateur français. Alors est-ce que vous pourriez nous dire justement, s'agissant de votre activité, combien d'opérations ont été instruites au titre du contrôle des investissements étrangers ? J'ai même l'impression que le rapport annuel 2023 vient de sortir.
Effectivement, alors c'est une question d'actualité puisque nous avons publié notre rapport d'activité portant sur l'année 2022 la semaine dernière. Et ce qu'on peut voir dans ce rapport, c'est qu'en 2022, l'activité du contrôle des investissements étrangers en France est restée stable par rapport à 2021. On a eu 325 dossiers qui ont été déposés auprès de la Direction générale du Trésor donc en 2022 contre 328 en 2021. La tendance est compliquée un peu à expliquer. Enfin, c'est compliqué d'isoler précisément les facteurs qui permettent de justifier d'une stabilité d'activité ou bien d'une augmentation. Ce que je peux dire très rapidement sur la comparaison finalement 2021-2022, c'est qu'on a eu certainement trois facteurs qui ont joué. Le premier facteur, c'est le dynamisme du marché du M&A. qui en fait a connu un ralentissement en deuxième partie d'année. Et comme le contrôle IUF s'inscrit dans le cadre d'opérations de M&A, notre activité de contrôle finalement est corrélée au dynamisme du marché du M&A. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur que je peux souligner, qui est un facteur beaucoup moins quantitatif, c'est le fait que le contrôle des investissements étrangers en France, mais également au sein de l'Union européenne, comme vous me mentionnez juste avant, est un dispositif qui est de plus en plus connu et assimilé par les parties prenantes. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand un investisseur étranger va projeter un investissement en France, il va avoir beaucoup plus le réflexe, finalement, de s'interroger sur l'application ou pas du contrôle, ce qui peut donner lieu à des dépôts de dossiers auprès de la direction. Et enfin, le troisième facteur qui peut rentrer en ligne de compte, c'est le périmètre aussi, le cadre réglementaire finalement du contrôle. Ça ne s'applique pas pour expliquer la tendance 2021-2022, puisqu'on a eu une relative stabilité, on va dire, entre le périmètre du contrôle. Mais par exemple, lorsqu'on compare l'année 2020 et 2021, où on avait eu quand même une augmentation de dossiers déposés de 32%, ça pouvait être corrélé aussi avec une extension du périmètre du contrôle à la suite de la loi Pacte et de la crise sanitaire.
Et l'extension, ce sont des activités sensibles ?
Sur le champ des activités sensibles, pour 2020-2021, principalement, oui. Principalement. Mais on avait eu aussi une modification qui portait sur les investissements, la nature des investissements soumis au contrôle.
Alors, est-ce que vous pourriez justement nous rappeler les trois critères du contrôle des investissements étrangers ? Ça a été l'objet d'une brève présentation lors du premier épisode, mais est-ce que vous pourriez nous dire quels sont ces trois critères du contrôle ?
Alors, effectivement, on a trois critères qui doivent être remplis simultanément pour que l'opération d'investissement soit contrôlée et donc soumise à l'autorisation préalable du ministre. C'est vraiment important d'avoir ces trois critères cumulatifs. C'est-à-dire que s'il en manque un, l'opération n'est pas éligible. Donc, ces trois critères portent d'une part sur la nature étrangère de l'investisseur. Donc, pour aller très rapidement, est considéré comme étranger tout investisseur non français, qu'il soit européen ou non européen, ou bien...
Je peux me permettre de vous couper, mais ça veut dire que si moi je suis un investisseur français, mais que j'ai installé une holding au Luxembourg, je suis considéré comme un investisseur étranger ?
Si votre investissement se fait via la holding luxembourgeoise, oui.
D'accord. Et la distinction, c'est français-non-français ou c'est européen-non-européen ?
C'est français-non-français, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes non discriminatoires par rapport à la nationalité étrangère, donc un européen et un non-européen. Sont considérés étrangers tous les deux. Ce qu'il est important également de noter, c'est qu'un résident, une personne physique de nationalité française, résidente fiscalement hors de France, est considérée également comme comme étrangère au sens de la réglementation.
Alors, premier critère, la nationalité. Deuxième critère, donc...
L'opération d'investissement. On considère trois types d'investissements qui sont soumis au contrôle dans notre réglementation. Le premier, c'est l'acquisition du contrôle d'une entité de droit français. La deuxième type d'opération, c'est l'acquisition de tout ou partie, donc c'est quand même assez large, d'une branche d'activité d'une entité française. Et le troisième type d'investissement, c'est des franchissements de seuil de droit de vote pour des investisseurs non européens.
10%, c'est bien ça ?
C'est 25% pour les sociétés cotées et non cotées. Et pour les sociétés cotées sur un marché réglementé, ce seuil a été abaissé à 10% pendant la crise sanitaire.
Pour protéger de la prédation économique, c'est bien ça ?
Pour protéger des prises de participation opportunistes sur les marchés financiers à la suite en fait, d'une déstabilisation de ces marchés liée à la crise sanitaire et plus récemment à la guerre en Ukraine.
Si je vous comprends bien, cette articulation, elle se fait entre l'ouverture, la liberté d'investissement et le contrôle. Et le contrôle, c'est la souveraineté industrielle, la sécurité économique et contre les prédations économiques. C'est bien ça ?
L'objectif, c'est vraiment de protéger notre sécurité publique, ordre public et les intérêts de la défense nationale. On revient toujours à cet objectif-là, qui peut être lié effectivement à des phénomènes de prédation. Mais qui peut être aussi, en réalité, sans intention entre guillemets malveillante, mais avec une stratégie d'un investisseur qui, pour avoir de la rentabilité financière, va peut-être privilégier certaines activités d'une entreprise française au détriment d'autres, alors même que ces autres activités, pour par exemple le secteur de la défense, sont excessivement importantes.
Alors, Mille merci. Deuxième critère, troisième critère, les secteurs sensibles. Alors, je crois comprendre qu'aux États-Unis, il n'y a pas de secteur sensible. Tout est sensible. En France, 31 secteurs sensibles. Pourquoi ? Comment ?
Alors, effectivement, notre réglementation, par rapport à la réglementation américaine, a fait le choix de la transparence et finalement de plus de lisibilité en listant un certain nombre de secteurs ou de domaines d'activité qui vont être soumis au contrôle. Très rapidement, on peut distinguer trois types de secteurs, finalement, dans notre réglementation. Le premier type, ce sont des activités qu'on juge sensibles par nature et qui ont trait, en fait, principalement à la sécurité et à la défense. Le deuxième type d'activité, ce sont des activités qui vont porter sur des infrastructures, des biens ou des services qui sont essentiels pour garantir la sécurité publique et l'ordre public. Par exemple, l'approvisionnement en énergie, la sécurité alimentaire, la santé publique. Voilà. Et enfin, un troisième type d'activité, ce sont les activités de R&D, de recherche et développement, qui portent sur des technologies critiques listées, encore une fois, dans un arrêté. Donc, vous le voyez bien, on est vraiment dans la précision dans notre réglementation. Et ces technologies critiques-là, eh bien, ça va porter, par exemple, sur le quantique, sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur les biotech.
Mais donc on peut dire que les secteurs sensibles ne cessent d'augmenter avec ces trois volets, défense nationale, souveraineté industrielle, sécurité économique et la R&D. Et vous ajustez, ou le législateur ajuste en fonction des événements géopolitiques, économiques ou des crises sanitaires, c'est bien cela ?
Alors effectivement, les dernières modifications qu'on a eues dans notre réglementation portaient sur les secteurs. Donc très récemment, on a eu au 1er janvier 2022 l'entrée dans la liste des technologies critiques que j'évoquais à l'instant, les technologies portant sur intervenant pardon dans la production d'énergie renouvelable. Et en fait, on a effectivement un focus, je dirais, particulier sur ce troisième critère dans les modifications qui sont apportées. Mais ce qui est vraiment important, c'est que en fait, notre mécanisme de contrôle des investissements étrangers, s'il est effectivement lisible et transparent, avec des critères, je dirais, listés dans notre réglementation, doit rester agile. C'est excessivement important parce que nous, quand on va réaliser l'instruction des demandes d'autorisation d'un investissement étranger en France, ce qu'on va regarder, c'est le risque porté à la sécurité publique. Et ce risque-là, forcément, il évolue dans le temps. Donc il faut que notre mécanisme, il soit agile et il soit également, il s'adapte finalement aux nouveaux risques, aux nouveaux enjeux qui peuvent se présenter. Par exemple, lors de la crise sanitaire. Par exemple, à la suite de la guerre en Ukraine.
Alors, justement, concrètement, comment vous faites cette analyse? Puisque la demande d'autorisation, elle doit être déposée en français sur votre bureau, à la Direction générale du Trésor. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette procédure d'instruction ?
Alors, la procédure d'instruction, elle est pilotée par la Direction générale du Trésor, donc par mon bureau, qui est vraiment le point de contact au sein de l'État vis-à-vis de l'investisseur étranger et de ses représentants, qui sont les avocats.
Et si vous me permettez, dans le monde, les contrôles des investissements étrangers, c'est plutôt piloté par le département du Trésor, l'exécutif et en général le ministre de l'économie ou des finances. C'est bien cela, hein ?
Oui.
Vos interlocuteurs ou ceux avec qui vous dialoguez viennent plutôt du ministère de l'économie.
Oui, c'est une constante, je dirais, quand on regarde. Alors dans l'UE, oui, au niveau, enfin hors UE, c'est également une constante. Il peut y avoir quelques petites différences. Mais globalement, c'est en général, le contrôle des investissements est quand même piloté par le ministère chargé de l'économie.
Chargé de l'économie. Donc, vous centralisez les demandes, c'est bien celle-ci, et vous les instruisez en fonction des trois critères que vous avez énoncés préalablement. C'est bien cela ?
Exactement. On va vérifier que les trois critères sont bien remplis. Alors, sur les deux premiers critères, la nature de l'investissement et la nationalité de l'investisseur, c'est le Trésor qui va mener l'analyse. Mais sur le troisième critère, qui porte vraiment sur la sensibilité des activités d'une entreprise française pour la sécurité publique, l'ordre public ou les intérêts de la défense nationale, on se repose sur un comité, le comité interministériel aux investissements étrangers en France, qui est composé d'une quarantaine de membres de 10 ministères différents et qui apporte en fait leur expertise dans les secteurs concernés. Dans lequel agit l'entreprise française. Par exemple, si on prend une cible française qui serait active dans le domaine de la santé, Ce que nous allons faire, c'est que nous allons solliciter nos collègues du ministère chargé de la Santé, de la Direction Générale des Entreprises, également la Direction Générale de l'Armement, puisqu'en fait, on peut avoir aussi des biens à double usage qui sont...
civils et militaires.
Qui sont produits par l'entité cible, ou bien même une application dans le service de santé des armées. Et puis le SGDSN également sur la partie encore biens à double usage. Donc on sollicite ces différents ministères qui vont nous donner un avis sur la sensibilité. Et ensuite, après, nous allons concaténer ces avis, faire émerger finalement une position commune au sein de l'État que nous allons porter, nous, Direction Générale du Trésor, auprès de notre ministre. Notre ministre donc va vraiment prendre la décision finale, c'est bien lui qui signe la décision, ou bien par délégation, bien sûr, d'autres personnes de la Direction Générale du Trésor, mais c'est toujours par délégation du ministre chargé de l'économie.
Une petite question, la demande, elle est faite par l'entreprise, donc l'investisseur étranger, ou par la société cible française ?
Elle est faite par l'investisseur étranger.
C'est toujours l'investisseur étranger qui vient avec ses conseils vous voir pour proposer, pour vous demander une autorisation. C'est bien ça.
Oui, en sachant que la décision est bien rendue également à l'investisseur étranger.
D'accord.
Elle n'est pas rendue à la cible française.
Est-ce que vous pourriez alors, parce que la difficulté pour nous qui fréquentons cette matière par la presse, par les textes, c'est que les décisions sont confidentielles. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, avec un exemple évidemment fictif, peut-être dans le domaine de la santé, comment cette analyse est faite, ces trois critères ?
Ce qui est vraiment important à bien comprendre dans notre analyse, dans l'instruction qui est faite d'une demande d'autorisation, c'est que elle est faite de manière casuistique. Donc c'est vraiment du cas par cas. On va regarder qui est l'investisseur, quelle est la stratégie de cet investisseur vis-à-vis de l'entreprise
même
française.
Et la question de l'honorabilité.
Également, qui est d'ailleurs en fait un des deux motifs que le ministre peut invoquer pour refuser un investissement étranger en France. Ensuite, donc, de manière toujours aussi casuistique, le type d'investissement, et puis les activités de la cible française. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va regarder toutes les activités de la cible française. Et ce n'est pas parce que, et sans se baser sur des notions de seuil en termes de taille d'entreprise ou en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, on peut avoir une entreprise française qui réalise 5% de son chiffre d'affaires dans le secteur de la défense. Alors pour elle, pour l'entreprise française, ça n'est quasiment rien. C'est une activité, je dirais, mineure. Par contre, pour le ministère des Armées en face, cette entreprise peut être le seul fournisseur, dans un certain produit, des forces armées. Et dans ce cas, du point de vue de l'État, cette activité-là de défense qui est peut-être mineure est d'importance...
Est d'importance, mais alors donc, ça veut dire que vous... Dans ce cas complètement fictif, vous refusez l'acquisition ou vous dites, par exemple, eh bien, je veux que le centre de R&D, que tel élément reste en France. Quels sont les choix qui s'offrent au ministre et aux services qui instruisent le dossier ?
Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va regarder quel est le risque. Donc, quel est le risque pour la sécurité publique, l'ordre public ou les intérêts de la défense nationale ? Une fois qu'on a vraiment mis des mots sur ce risque, on va regarder quelle est la meilleure, issue possible qu'on puisse donner au dossier. Notre première approche, c'est toujours de regarder est-ce qu'on peut imposer des conditions à l'investisseur étranger qui permettent de limiter le risque. Et en deuxième volet, si on n'arrive pas à imposer des conditions pour limiter le risque qu'on identifie, dans ce cas, ça peut être un motif de refus de l'investissement.
Donc ça veut dire... Il faut trouver une bonne raison de dire non. Est-ce que c'est comme ça que vous le formuleriez ? Il faut trouver une bonne raison de dire non à l'investissement. Ou c'est une interprétation libre ? J'ai l'impression que vous pensez que c'est plutôt une interprétation libre de ma part.
Alors, bonne raison donne un caractère un peu subjectif. Or, dans notre réglementation, vraiment, on n'a que deux motifs de refus qui sont liés à l'honorabilité de l'investisseur. Et encore une fois, là, ça peut être... c'est très objectif. C'est si l'investisseur a déjà était condamné pour des faits graves, ou bien s'il n'a pas respecté notre réglementation sur le contrôle des investissements étrangers
en France. Ou des autorisations, conditions.
Exactement. Ça peut être un motif de refus. Deuxième motif, qui est également objectif, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver des conditions pour limiter le risque qu'on a identifié. Et dans certains cas, effectivement, on peut ne pas réussir à, par exemple, limiter le transfert d'informations à l'étranger ou autre.
Comme tous les auditeurs d'Amicus, qu'ils soient universitaires, magistrats, avocats ou étudiants, on est un peu surpris parce qu'on ne sait pas exactement où trouver la bonne information sur le contrôle des investissements étrangers. Si on s'intéresse au droit de la concurrence, nous avons des arrêts, des lignes directrices et toute une doctrine. Alors comment on fait pour s'améliorer, parfaire nos connaissances en matière de contrôle des investissements étrangers ?
Alors la question est intéressante parce que je pense qu'elle recoupe une autre question qui est pourquoi est-ce qu'on ne rend pas publiques les décisions relatives au contrôle des investissements étrangers alors même que j'évoquais tout à l'heure le fait que notre mécanisme est transparent et se veut lisible. Donc il y a peut-être deux raisons que je peux évoquer ici. La première raison, c'est que la procédure de contrôle, elle est protégée par des règles de confidentialité strictes liées au secret des affaires, d'une part, et d'autre part, à des normes qui sont applicables en matière de défense nationale, et notamment des informations qui peuvent être classifiées. La deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas rendre public une cartographie des entreprises qui sont finalement sensibles pour la sécurité publique, l'ordre public et les intérêts de la défense nationale, au risque finalement de les mettre en difficulté ou bien de les fragiliser finalement. Donc ça, c'est la deuxième raison, qui n'est quand même pas une raison, je dirais, mineure. La décision, comme on l'évoquait tout à l'heure, elle est communiquée uniquement à l'investisseur et elle n'est pas non plus rendue publique par le ministre, hein, contrairement d'ailleurs à l'autorité de la concurrence. Et donc, l'approche jurisprudentielle est effectivement très limitée pour le contrôle des investissements étrangers en France. Il peut y avoir des recours, c'est-à-dire que toute décision qui est émise par le ministre chargé de l'économie est susceptible de recours dans un délai
de plein droit, devant les tribunaux administratifs.
Exactement. Et en tout état de cause, et pour faire juste écho à ce qu'on se disait à l'instant, l'analyse jurisprudentielle, elle est très difficile à réaliser, puisqu'en fait, on fait vraiment une instruction au cas par cas. Et ça dépend de l'investisseur, de l'investissement et des activités de l'entreprise sensible.
Mais alors, comment peut-on en apprendre plus sur le contrôle des investissements étrangers en France?
La Direction générale du Trésor a dédié une partie de son site aux investissements étrangers en France. Et sur ce site, vous trouverez toute la documentation relative au contrôle des investissements étrangers en France, à la fois les rapports annuels, des lignes directrices que nous avons publiées, une foire aux questions, et puis tous les articles émis par la Direction générale du Trésor sur le contrôle des investissements.
Y compris même des dossiers fictifs pour pouvoir, un questionnaire qu'il convient de remplir pour pouvoir soumettre à vos services une demande d'autorisation. C'est bien cela ?
Nous avons mis en ligne des dossiers types afin de bien mettre en avant tous les documents qui sont nécessaires pour une demande d'autorisation, afin notamment d'aider les investisseurs étrangers à avoir des dossiers complets dès le départ, ce qui permet d'avoir des délais d'instruction plus réduit pour eux.
Marie-Anne Lavergne, au nom d'Amicus, nous vous remercions.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé et réalisé par Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.